Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Rome, en Occitanie depuis quelques mois, l'on en parle à nouveau beaucoup. En cause, la présence de familles avec enfants vivant en plein centre-ville, notamment de Toulouse. Sans parler des véritables bidonvilles existant aux périphéries de cette grande ville française. Les Roms, nouveau bouc émissaire, a-t-on envie de demander, tant ils semblent ne pas être aimés et faire l'objet de plus en plus de rejets. Qui sont les Roms? Sont-ils seulement tous ces pauvres que l'on croise dans nos villes et dont on se demande s'il n'y a pas derrière quelques réseaux de mendicité? Rome, quel accueil! C'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Très heureux de faire cette émission qui a été difficile à monter. On en parlera, cela dit peut-être des choses sur le sujet. Autour du plateau, Jean-Pierre Liégeois, qui est fondateur du Centre de Recherche Zigane de l'Université Paris-Descartes et auteur de Rome et Zigane, Paris aux éditions de La Découverte. Bonjour.
Bonjour.
Nathaël Vigneault, vous êtes coordinateur de l'association Rencontre Rome Nous à Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Et André et Nicolas, vous êtes un jeune Rome et vous êtes en service civique au sein de cette même association Rencontre Rome Nous. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Pierre Liégeois, on va commencer avec vous en ce début d'émission pour faire un point, pour essayer de rentrer un peu dans l'univers des Roms et découvrir un petit peu qui ils sont. Vous êtes donc l'auteur de cet ouvrage, Rome et Zigane, paru aux éditions de La Découverte. Vous êtes un bon spécialiste du sujet. J'aurais envie de vous demander d'abord, vous qui connaissez extrêmement bien ce sujet, est-ce qu'au long de vos années de travail, vous êtes toujours aussi, vous êtes peut-être désolé du peu de connaissances du grand public quant aux Roms et des a priori que nombre d'entre nous ont sur ces personnes-là?
Oui, effectivement, parce que la plupart des comportements qu'on a à l'égard des Roms, des manouches, des gitans, enfin, on vous aborderait peut-être la question des différents noms qu'on peut donner et qui sont donnés, les attitudes. Les comportements découlent d'un certain nombre d'attitudes qui sont inspirées par des préjugés, des stéréotypes, par une méconnaissance. J'ai l'habitude de dire que les Roms ne sont pas des inconnus. Il vaudrait peut-être à certains égards mieux pour eux être inconnus, mais méconnus, c'est-à-dire que on ne les voit. Et cela tout au cours des siècles, sans qu'il y ait, pour répondre à votre question, d'amélioration significative de la situation, on les voit à travers un prisme qui est complètement défini par des préjugés et par des stéréotypes.
Alors on va y venir justement. Donc j'ai lu que les Roms étaient la principale minorité en Europe, que contrairement à l'idée qu'on s'en fait, on y reviendra, la plupart d'entre eux sont sédentaires, en tout cas en France, sédentaires, salariés, intégrés. J'aimerais commencer tout simplement, est-ce que vous pouvez nous donner un peu une étymologie du mot Rome et qu'est-ce qu'on recouvre, qu'est-ce que ce terme recouvre comme réalité, parce qu'il y a aussi de multiples adjectifs, donc on s'y perd un peu, Rome, Zigane, Gitan, Manouche, même si je crois que c'est assez péjoratif, ou Roman Michel, tout aussi peut-être péjoratif. Qu'est-ce que ce mot et que recouvre-t-il comme réalité?
Alors, la question est relativement complexe et en quelques minutes, on est obligé quand même d'être relativement bref. Le terme Rome est celui qui a marqué l'origine de l'Inde, l'origine indienne des populations qui ont donné lieu à différentes migrations au cours des siècles. Et ce n'est que, on en revient à la méconnaissance qu'on évoquait à l'instant, alors que les Roms ont probablement quitté l'Inde autour du 9e, 10e siècle, c'est beaucoup plus tard, au 18e siècle, que pratiquement par hasard, par un hasard de rapprochement linguistique, d'une personne qui parlait des langues du nord de l'Inde et qui avait des amis roms, à les entendre parler, et parlant les langues du nord de l'Inde, il a émis l'hypothèse qui avait une très très grande similitude. Et à partir de ce moment-là, des linguistes se sont mis au travail et ont confirmé cette hypothèse qui est devenue une certitude de l'origine indienne. Et donc, voilà pour le terme rom qui encore aujourd'hui désigne... Bon, la langue, il y a une grande proximité aujourd'hui encore avec des langues telles que le hindi, telles que le panjabi. L'ensemble de ces langues, y compris le romani, la langue des Roms, découle de cette vieille langue de l'Inde qui est le sanskrit.
Alors juste, Jean-Pierre Léjoie, sur l'origine, j'ai lu aussi que même les Roms, entre eux, en fait, avaient une définition un peu mystérieuse de leurs origines, que certains disaient qu'ils étaient les fils de Noé, d'autres des mages de Chaldée, d'autres donc des gens venant d'Inde et d'origine hindoue. Est-ce qu'il y a aussi, enfin là vous avez l'impression qu'il y a une origine qui est claire, mais est-ce qu'il y a du mystère aussi autour de ça?
Oh, écoutez, je crois que bon, il y a un certain nombre de légendes qui se sont développées au cours des siècles et un petit peu conjoncturelles qui se sont développées dans tel ou tel pays. Mais maintenant, de plus en plus, il y a quand même, de la part des communautés roms, la connaissance de ce vécu historique. Et les organisations roms, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient politiques, au cours des dernières décennies, qui ont émergé sur la scène nationale et sur la scène internationale, il y a une Union Romanie internationale au niveau international, qui est le partenaire, qui a un statut consultatif, par exemple, auprès des Nations Unies. Il y a des travaux qui ont été faits. Il y a maintenant des instances développées par les Roms qui font des travaux de recherche, notamment dans le domaine de la linguistique, mais aussi de l'histoire.
Bref, tout ça toutes les origines sont plutôt claires, du coup, à vous entendre maintenant.
Elles s'éclaircissent, en tout cas.
Alors, juste...
Elles sont, oui, si vous voulez, en prenant l'image d'un entonnoir, tout ce qui était très, très... l'éventail était très, très large. Était alimenté ou suralimenté par un certain nombre de légendes, et petit à petit, les choses
s'éclaircissent.
Les choses se précisent.
Alors Jean-Pierre Léjoie, juste, j'avance, excusez-moi, parce que comme on n'a pas beaucoup de temps, je ne voudrais pas rester trop longtemps sur l'origine.
Une présence historique, c'est-à-dire on s'inscrit dans 1000 ans d'histoire, et ce qui est intéressant pour vos auditeurs, c'est que c'est justement cette année qu'on arrive exactement sur un anniversaire, puisque les premières archives, sans parler du départ de l'Inde, mais les premières archives attestant de la présence des Roms en France, les deux premières sont dans le département de l'Ain et l'autre près de la ville de Sisteron, donc dans la région PACA, date de 1419.
Alors Jean-Pierre Léjoie, on va y venir justement, si vous voulez bien, on avance parce que je vois le temps qui passe et j'ai beaucoup d'autres questions à vous poser, je ne voudrais pas rester trop longtemps sur chaque question. Donc ils sont arrivés donc en Europe, comme vous venez de le dire. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire peut-être de ce qu'ils ont vécu justement en Europe et plus particulièrement en France? Par exemple, j'ai noté qu'au 15e siècle, ils ont fait l'objet de nombreuses persécutions et entre autres, on pourrait dire par exemple que sous Louis XIV, les Roms, alors qu'on appelait, semble-t-il, les bohémiens à l'époque, les hommes étaient envoyés aux galères sans procès, les femmes rasées et les enfants enfermés dans des hospices. Racontez-nous un peu l'objet de la persécution qu'ils ont vécue au long de l'histoire européenne. Rapidement.
Écoutez, moi j'essaye de faire une classification, une typologie pour répondre rapidement à votre question. Les politiques qui ont été menées au cours de l'histoire pourraient être classées dans le cadre de politiques d'exclusion. La première arrivée des communautés roms dans la plupart des États a été... le premier mouvement a été celui de bannissement hors du territoire de tel ou tel royaume ou de tel ou tel État, c'est-à-dire une disparition géographique par le rejet hors du territoire. Et d'autres politiques ont été des politiques de réclusion, elles sont venues un petit peu plus tard, qu'on peut caractériser comme étant des politiques d'enfermement en quelque sorte, c'est-à-dire une utilisation de la force de travail que les communautés roms ont pu représenter, c'est-à-dire l'envoi dans les galères, c'est-à-dire la déportation dans les colonies, le peuplement initial par les Roms, par exemple, je cite exprès des exemples totalement méconnus de l'Australie est dû à une déportation de l'Angleterre vers l'Australie. Il y a eu déportation de Roms du Portugal dans ses colonies, et notamment, y compris en Afrique, en Angola, etc., etc. Donc, tout cela pour peupler un territoire et pour utiliser la force de travail, comme dans les galères. En Espagne, l'envoi dans des mines de mercure. Dans le sud-ouest de la France, dans les Pyrénées notamment, utilisation pour la construction de routes, etc., etc.
Alors, pendant... Oui, allez-y, oui. Jean-Pierre Léjoie, pardon.
Non, et aussi des autres éléments de la typologie que je fais, ce sont des politiques d'assimilation, c'est-à-dire que dans le premier cas, avec l'exclusion, on est dans le cadre d'une disparition physique, géographique. Dans les politiques d'enfermement, c'est une disparition sociale, parce que les familles sont éclatées, séparées, les enfants des adultes, les femmes des hommes, etc., etc., pour cette utilisation que j'évoquais, telle que l'on voit dans les galères ou dans les colonies à peupler. La politique d'assimilation, c'est une politique qui se caractérise par une disparition culturelle. C'est-à-dire, pour répondre à votre question, qu'au cours des siècles, l'ensemble des politiques ont été des politiques de négation de l'existence même, soit en tant qu'individu, en tant que personne ou en tant que culture, de la population rome.
Alors, on pourrait parler aussi du génocide dont ils ont fait l'objet pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai noté que sous le régime nazi, il y avait entre 50 et 80 000 roms qui avaient été donc massacrés. De la collaboration de la France aussi sur ce sujet. Ouais. Il y a eu des camps dans le sud. Alain de Meuzan, Jean-Pierre Léjoie, juste quand même, on n'a pas beaucoup de temps. On va avancer, hélas, des trop grands pas certainement pour vous qui êtes un grand spécialiste de ce sujet. Est-ce que vous pouvez revenir aujourd'hui, les roms que l'on voit en France, qui sont-ils et d'où viennent-ils, tout simplement? On sait qu'il y a beaucoup de Roms en Roumanie, on a l'habitude de dire qu'ils viennent d'Albanie, on s'y perd un petit peu. C'est quoi? C'est surtout de la région des Balkans, grosso modo?
Alors, il y a une présence historique, hein, je vous disais, 1419, donc là on ne parlait pas des Balkans, on ne parlait pas du Kosovo, on ne parlait pas... Il y a eu des vagues successives de déplacements des familles, des communautés roms. Et la plupart du temps, on critique les Roms pour être... d'abord, il faut évacuer, je pense, le terme de nomade. Hein. Vous l'évoquiez tout à l'heure, à juste titre, en disant que beaucoup ne l'étaient pas. Et effectivement, il vaut mieux parler de mobilité, parce qu'elle peut prendre des formes extrêmement diversifiées. Et alors, le peuplement, puisque vous parlez de la France, les premières familles arrivent en 1419. On peut suivre dans les archives les traces de ces familles qui vont d'une ville à l'autre. Il y en a qui arrivent.
Mais aujourd'hui, Jean-Pierre Léjoie, ma question, c'était aujourd'hui.
Justement. Bon, alors aujourd'hui, l'image qu'on a.
Aujourd'hui, d'où viennent-ils? Est-ce qu'ils viennent globalement des Balkans, Roumanie, Albanie, etc.
Exactement. Au fil des siècles, comme une stratification s'est opérée de ces vagues successives. Et alors aujourd'hui, les Roms, une grande partie des Roms sont arrivés juste avant la Révolution russe parce qu'ils étaient, au début du XXe siècle, ils étaient menacés, les différents belligérants, estimant qu'ils étaient les partisans des autres et donc les menacés physiquement. On a exactement la même chose aujourd'hui avec le Kosovo, c'est-à-dire qu'au Kosovo, il y avait à peu près 120 000 Roms. Vous avez parlé du génocide et le chiffre que vous avez donné doit être augmenté. Hein. C'est entre 400 000 et 500 000 Roms qui ont disparu sous le régime nazi. Alors au Kosovo, il y avait 120 000 Roms avant la guerre dans les années 90 et à la fin de la guerre, il en est resté quelques dizaines de milliers seulement. Donc ça explique ces vagues migratoires qui sont beaucoup plus subies que voulues, c'est-à-dire qu'elles sont une réponse aux conditions d'existence qui sont faites aux Roms. Et alors, aujourd'hui, vous avez en France Alors là, je réponds directement à votre question. Aujourd'hui, vous avez en France des groupes de familles qui étaient déjà là à la fin du Moyen-Âge. Vous avez des groupes de familles qui sont arrivés, je saute là par-dessus les siècles, au cours de cette vague migratoire, entre guillemets, russe, d'avant la Révolution de 1917 et qui se sont implantés autour des grandes villes, autour de Paris, et qui portent d'ailleurs des noms russes, tels que l'écrivain rome Matteo Maximoff, mais vous avez les familles Zotov, Blinov, Koudakov, etc., etc.
Et les familles qui viennent des Balkans.
Voilà, vous avez. Alors pour les Balkans, il y a eu une vague migratoire importante. Et j'ai souvent indiqué que probablement ce groupement, cette communauté rome issue de l'ex-Yougoslavie dans les années 1970, parce qu'il y a eu des accords entre l'ex-Yougoslavie et un certain nombre d'États, dont la France, il y a eu donc un déplacement important de population, pas seulement les Roms.
Mais y compris en France.
Les Roms, et la population rome, une des plus importantes actuellement en France, c'est celle qui est issue de l'ex-Yougoslavie dans les années 1970.
Eh bien, merci beaucoup Jean-Pierre Liégeois. Je suis désolé, on va vous couper. Voilà, je rappelle donc, vous êtes l'auteur donc, de Rome et Zigane, paru aux éditions de La Découverte. Voilà, grand connaisseur et savant, vous avez fait voyager un peu à travers les siècles. On enverra donc vers votre ouvrage pour plus de détails. Il y a encore mille et une questions sur ce peuple, donc aux origines pas si mystérieuses que ça, et en tout cas aujourd'hui bien présent en France. Aujourd'hui, ce serait 400 000 Roms qui vivraient en France. Et puis, on va en parler à Toulouse, parfois dans des conditions très difficiles. On fait une première pause musicale. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Roms et Ziganes, paru aux éditions de La Découverte.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Rome, quel accueil, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce jour. On essaye donc de partir à la découverte de ces personnes et de ce peuple. On renvoie donc entre autres à la lecture de Rome et Zigane paru aux éditions La Découverte. On était avec Jean-Pierre Liégeois au début de cette émission. Avec nous autour du plateau, pour ceux qui nous rejoindraient, Nathalie Vigneault, qui est coordinateur de l'association Rencontre Rome-Nous à Toulouse, et Nicolas, je vais y arriver, vous m'aiderez, jeune Rome, donc aussi. Voilà, vous êtes en service civique dans cette même association. Alors, on a un petit peu entendu parler de vous, on est content de vous avoir en plateau. On va mettre un peu de chair dans cette grande digression historique de ce début d'émission pour avoir une tranche de vie. Alors, c'est vrai que souvent, quand on se promène dans les rues, que ce soit en Occitanie ou à Toulouse, la question qu'on se pose, c'est qu'on se demande en fait ce que vivent les personnes qu'on peut croiser. Alors, votre histoire représente l'histoire d'un certain nombre d'entre eux, des Roms, pas tous, hein, on l'a bien dit, la plupart des Roms sont sédentaires, salariés, intégrés. Vous, ça a été plus compliqué, André. Vous êtes arrivé en France donc à l'âge de
7 ans. Donc en 2010.
Voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter les débuts, dans quelles conditions vous êtes arrivé et où est-ce que comment vous avez vécu au début?
Quand je suis venu la première fois en France en 2010, en fait, j'étais petit, j'avais 7 ans, comme je viens de le dire. C'était horrible parce que déjà c'était sur un camp en fait. Et c'était bizarre, il y avait beaucoup de déchets, beaucoup de. Enfin, des déchets, de la merde quoi, des caca, tout ça.
Donc vous êtes arrivé dans la région toulousaine et le camp c'était la Flambert,
c'est ça ? La Flambert, ouais.
Qui existe toujours d'ailleurs, je crois.
Ouais, c'est toujours, ouais.
Vous êtes arrivé avec votre père, votre mère, vos oncles, vos tantes, enfin je sais pas, il y avait.
Oui, il y avait mon père, mes frères, on est 6 d'ailleurs. J'ai 3 sœurs et 2 frères. On est arrivé, ouais, avec.
Donc directement à Toulouse et directement dans ce camp.
Oui, du coup j'ai dû attendre un an pour faire des papiers pour aller à l'école. Du coup j'ai attendu et.
À quoi ça ressemblait la vie dans un camp comme ça en fait? Vous viviez en caravane et puis comment on fait pour se nourrir, pour se vêtir, pour.
Déjà pour commencer c'est pour vous dire c'est horrible parce que quand il fait froid t'as pas de l'eau chaude. Et t'as pas d'habits parce que t'habites dans un camp, t'as pas de travail. Du coup, t'es obligé d'aller faire la manche pour gagner à manger.
Donc vos parents faisaient la manche ?
Oui, et du coup, moi aussi avec eux parce que j'étais obligé. On était 6 et du coup, ma mère, elle pouvait pas faire d'argent autant pour qu'on mange tous, quoi. Du coup, j'étais obligé de faire la manche moi aussi.
Voilà, donc ça a duré pendant 5 ans, c'est ça ?
Oui, pendant 5 ans.
Voilà, pendant 5 ans. Alors juste, sans être indiscret, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, quand on fait la manche comme ça, qu'on est enfant, donc vous avez fait la manche du coup entre quoi, 7 et 12 ans ?
Non, pas 7 et 12 ans, entre 8 ans.
8 ans ? Oui. Quels souvenirs vous en gardez en fait ? Même à cet âge-là, on se rend compte en fait, et c'est une grande humiliation. Qu'est-ce que vous pourriez nous partager ?
Pour moi, c'est pas une humiliation de pouvoir s'en sortir en fait, de faire la manche. Mais quand... Quand on en parle maintenant, je me sens un peu gêné parce que tu vois, c'est des trucs que j'ai vécu, du coup, j'ai pas trop envie de parler, tu vois. Mais là, pour vous dire, c'est un peu.
Et qu'est-ce que vous pourriez dire à ceux qui passent dans la rue comme ça et qui voient des gens qui font la manche, y compris des enfants, pour essayer de comprendre en fait ce qu'ils vivent, c'est.
Pour qu'ils comprennent un peu ce qu'ils vivent, ces enfants-là qui vivent sur le camp. Déjà, il faut qu'ils comprennent que c'est dur de travailler. Enfin, déjà, ils savent pas parler français forcément, du coup, c'est plus difficile pour eux. Pour trouver du travail. Du coup, ces enfants-là, puisque leurs parents ils n'ont pas de travail, ils sont obligés de faire la manche parce qu'eux aussi, ils ont peut-être des frères ou je ne sais pas. Donc, ils sont obligés de se nourrir, quoi.
Alors, si on avance, donc, votre mère trouve du travail, c'était en 2013.
En 2013, oui.
Voilà. Elle trouve un travail quoi, salarié ou enfin quelques contrats, c'est ça ?
C'était un an. Un an, ça nous a permis d'aller à un appartement.
Voilà.
Et de là, j'ai continué l'école, mais c'était... Enfin, j'allais pas tout le temps parce qu'il y avait du racisme et...
Alors, on va y venir justement. Donc, du coup, grâce à ça, donc vous êtes en appartement avec vos parents.
Oui.
Vous êtes scolarisé, mais vous dites que vous avez justement donc une scolarité en dents de scie. Pourquoi ? Parce qu'il faut se remettre en fait de toutes ces années de vie difficile ou parce que vous êtes victime de... Comment dire ? De rejet ?
Parce qu'on est victime de racisme, ça n'empêche, en fait, on a peur. Mais après, ça... Enfin... Ouais, c'est ça.
Ça veut dire quoi, victime de racisme ? Ça veut dire qu'on vous traite de sale rhum dans la cour de récré ?
Oui, sale rhum, ou dégage tes sales, tu pues...
D'accord. Tout simplement, j'ai envie de dire. Mais ça suffit pour pas avoir envie de revenir à l'école.
C'est ça, quoi.
Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Du coup, il y a un dialogue qui s'instaure avec les enseignants, avec les responsables de l'établissement scolaire? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes un peu suivi par... vos parents sont soutenus là-dedans ou pas?
Pas fort par les profs ou par...
Par les profs, par la direction?
Non, pas forcément en fait.
C'est d'accord. C'est pas un sujet en fait.
Donc, c'est pas trop un sujet quoi.
On y reviendra hein, parce que c'est un des objets importants donc, de l'association Rencontre Romno d'aller faire de la sensibilisation dans les écoles. Oui. Aujourd'hui, donc, jusqu'à il y a peu, vous étiez donc en collège, vous étiez à Clément Cizor, à Toulouse. Vous avez fini votre collège et donc l'avenir pour vous, c'est éventuellement donc, d'être salarié au sein de l'association Rencontre Romno.
Oui.
Vous avez fait un service civique. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est fait la rencontre, justement? Est-ce que c'est à la faveur d'une intervention de l'association dans votre école?
Non, c'était, je l'ai rencontré sur le camp, en fait, à la Flambert. Il venait, comme ça, pour faire des ateliers avec nous, pour qu'il nous apprenne un peu à parler français, parce qu'au début, on ne savait pas parler français. On faisait des cours, je ne sais plus, de français, et on dessinait des colorages, tout ça. Donc, je le connais, ça fait 5 ans, avec cette année. Du coup, je le connaissais avant, mais je ne suis pas resté trop en contact, en fait. C'est là, en 2018, que j'ai commencé à faire des stages, en fait. J'ai fait un stage, un stage en 2018... le 20 février.
Peu importe les dates.
Voilà, en février, du coup, j'ai commencé à faire un stage, un premier stage, du coup, ça m'a plu, donc j'ai vu qu'est-ce qui faisait l'association, et du coup, comme j'aime bien travailler avec les enfants, donc...
Alors, on va parler donc du hashtag École pour tous, enfin de ce collectif dont vous faites partie. Aujourd'hui, d'après ce que j'ai pu lire, vous projetez donc dans une intégration dans la société française. Vous avez envie d'aller de l'avant. La preuve en est, c'est que si on y réfléchit, ça vous embaucher, c'est que vous êtes motivé. Et aujourd'hui, vous avez trouvé un sens en fait à comment dire à toute cette période difficile que vous avez vécue. Vous expliquez-nous qu'est-ce que vous avez envie de faire de votre vie professionnelle.
Professionnel?
Oui.
Et vous voulez que je parle d'école pour tout?
Enfin, non, semble-t-il, vous avez une ambition aujourd'hui, c'est de faire en sorte d'aider ceux qui sont Roms en France et que leur situation soit mieux connue. Expliquez-nous ça.
Donc c'est un collectif qui s'appelle École pour tous.
Et... Je parlais pas du collectif, je parlais d'en fait, si j'ai bien... Alors vous pouvez peut-être l'aider un petit peu, Nathanaël Vigneault, vous qui le connaissez. Voilà, qu'est-ce qu'il imagine comme avenir professionnel et qu'est-ce qu'il motive dans le fond?
Nous, ce qui a fait qu'on l'a pris, enfin ce qu'on a parié sur lui, c'est parce qu'il a cette envie de se servir de son histoire, qu'il met du coup au service du collectif École pour tous, mais de se servir de son histoire pour aider les autres et que les autres ne connaissent pas les mêmes difficultés que lui a connues.
Voilà, vous avez d'autres services civiques dans votre association. Oui, j'ai le souvenir d'une jeune fille qui voulait devenir avocate aussi pour aider... les personnes roms.
Et ça ne note tout de suite, mais elle n'est pas passée par l'association. D'accord. Malheureusement. Mais en tout cas, pour André, c'est qu'il a, lui, veut mettre son histoire au profit des autres, surtout des plus jeunes.
Alors, André, avant qu'on fasse une deuxième pause, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu du collectif École pour tous, hashtag École pour tous. Qu'est-ce que c'est que ce collectif et qu'est-ce que vous faites avec ce collectif?
C'est un collectif national. C'est École pour tous. En fait, on réunit plein de jeunes éloignés de l'école. Par exemple, les migrants, les gens du voyage, les Roms. Et on s'est réunis pour faire des actions. Je donne un exemple d'action, par exemple, dans un collège. En fait, avec nos histoires, à nous, on va dans les collèges pour leur montrer le racisme, en fait. C'est quoi pour pour qu'ils soient conscients des risques des jeunes qui peuvent arrêter l'école, en fait. On fait comme une scène de théâtre, en fait.
Des mimes ou des jeux d'acteurs, oui.
Des jeux d'acteurs de notre vie, en fait. Et du coup, on leur dit de qu'est-ce qu'ils faisaient, eux, à notre place, en fait.
Voilà, vous essayez de les faire rentrer dans votre histoire.
C'est ça.
Nathalie Vigneault, avant qu'on fasse une deuxième pause, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu la situation des Roms en Occitanie ou à Toulouse? Je disais qu'il y avait 400 000 Roms aujourd'hui en France, en tout cas c'est les chiffres que j'ai trouvés, je vous laisserai compléter. En Occitanie ou à Toulouse, on sait combien ils sont?
Alors en Occitanie, je ne sais pas. Déjà, dire que c'est difficile de dire le nombre de Tziganes parce que c'est des statistiques ethniques et ça reste interdit en France. Néanmoins, on estime à Toulouse qu'il y a à peu près 4500 personnes qui sont à la rue, donc tous ne sont pas des Roms, et on estime entre 1000 et 1500 personnes qui sont Roms qui vivent en bidonville. sachant que ces chiffres n'incluent pas tous les Roms qui vivent en appartement et qui sont intégrés. Parce que c'est, il faut le rappeler, hein, tous les Roms en France ne sont pas dans des bidonvilles.
Alors c'est ce qu'on disait, mais justement, si on essaye de trouver des chiffres à l'échelle de Toulouse, c'est quoi en fait des Roms? Il y en a 4-5 fois 1000. Plus qui sont intégrés. Là, vous parlez à nouveau des gens qui sont en situation d'exclusion, mais si on prend un chiffre global, est-ce qu'on peut...
Ça, j'en sais pas. On n'a pas personne n'a de statistiques à ce niveau-là. Donc je préfère ne pas en donner... En tout cas, les seuls éléments, c'est entre 1000 et 1500 qui seraient en situation de précarité en bidonville.
D'accord. À propos des bidonvilles, est-ce que vous pouvez nous parler aussi, puisque c'est aussi l'actualité, donc il y a ce camp donc, dont on parlait tout à l'heure, la Flambert, mais il y en a un autre qui fait beaucoup parler de lui, celui de Malpère, c'est ça ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qui se passe là-bas ?
Alors, je crois qu'il a été démantelé par la ville de Toulouse, mais c'est un camp de Roms où ils se sont installés sur place, faute de situation, enfin de meilleure situation, parce que ce qui s'est dit depuis tout à l'heure, c'est que c'est pas un choix de vivre en bidonville, c'est que c'est faute de mieux. Donc les Roms ont vocation à être sédentaires, ils sont sédentaires, donc ils sont ce que Jean-Pierre Léjoie disait qu'ils étaient mobiles, mais oui, ils sont mobiles de force parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Donc chaque personne qui vit en bidonville aspire à vivre en appartement et en une situation digne. Donc les Roms qui vivaient à Malpère sont...
Mais ça ressemblait à quoi en fait ? Ces bidonvilles que les gens connaissent pas forcément aux alentours de Toulouse, à quoi ça ressemble ?
C'est un bidonville, c'est des caravanes, c'est des cabanes de fortune faites de bois, de planches, de ce qu'on trouve dans la rue. Souvent pas de douche, pas de toilettes. Donc c'est des conditions de vie dignes un peu, qui ressemblent au tiers-monde, mais qui sont ici en plein centre-ville, dans la quatrième ville de France, et dans les plus grandes villes de France.
Et alors, il y en a beaucoup d'autres, parce que là, on a cité donc la Flambert, Malpère, vous dites que ça a été démantelé, 1500 personnes dans des bidonvilles autour de Toulouse, ça fait juste deux camps, ça, ou en fait...
Non, il y en a entre 7 et 10, après, c'est des gros camps, après, il y a plein de petits camps, ou des petits îlots, entre guillemets. Donc y a, voilà, après, sur les 7 à 10 camps, il y a 3 terrains municipaux qui sont conventionnés avec la ville de Toulouse.
Conventionné avec la ville de Toulouse, c'est, ça veut dire
c'est qu'ils ne risquent pas d'expulsion, ils sont en situation légale, entre guillemets.
Alors, j'aimerais juste qu'on fasse un... On en profite, hein, on va faire maintenant ce point, et après on développera l'action de votre association. Toulouse, semble-t-il, pas exemplaire, mais en tout cas, va de l'avant sur ce sujet. Il y a depuis 2015 un plan d'intégration, d'intégration des Roms. J'ai cru comprendre qu'il y avait donc une politique de logements sociaux, qu'il y avait déjà plus de 800 Roms qui en avaient bénéficié de ce plan qui a été lancé en 2015, soutenu entre autres par Daniel Rouget, qui est élu donc aux questions de précarité pour la Toulouse Métropole. Racontez-nous un peu ce projet, en quoi il consiste. À certaines conditions, il est proposé à ces familles de se loger et du coup, elles arrivent à aller de l'avant.
Oui, c'est vrai que Toulouse est souvent citée comme bonne élève puisqu'elle applique la circulaire interministérielle qui avait été faite il y a quelques années, qui dit que quand on démantèle un bidonville, il doit être accompagné de solutions de relogement avec un diagnostic social au préalable. Donc ce diagnostic-là s'applique pour les personnes européennes, donc les ressortissants européens dont font partie la Roumanie et la Bulgarie. Il faut le rappeler qu'ils sont partie intégrante de l'Union européenne.
Et vous citez ces deux pays parce que souvent les Roms viennent de ces deux pays.
Et
on parle de l'Albanie aussi souvent.
L'Albanie, voilà, sauf que l'Albanie n'est pas dans l'Union européenne, donc ce même droit ne s'applique pas et donc ne relève pas de la ville de Toulouse, mais de la préfecture, donc d'accord, de l'État. Donc c'est pour ça que les situations ne sont pas les mêmes. Et sous l'impulsion de Daniel Rouget, à chaque démantèlement, il y a des solutions de relogement ou d'hébergement qui sont proposées aux Roms, du coup, qui habitent sur les bidonvilles démantelées, avec des contreparties. Donc c'est accès à l'emploi, accès à l'éducation, enfin la scolarisation des enfants, etc. C'est un contrat de donnant-donnant.
Etc. J'avais cru comprendre que c'était en fait 3 conditions, c'est-à-dire avoir un projet professionnel, scolariser les enfants, et puis respecter les logements dans lesquels on est.
C'est ça.
D'accord. Donc vous diriez que Toulouse montre l'exemple, en tout cas sur le sujet. Ça fait partie des grandes métropoles qui montrent l'exemple.
Montre l'exemple, oui. Après, tout n'est pas parfait, et je prends pas parti entre la ville et les associations, mais en tout cas, Toulouse fait mieux que certaines grandes villes, en tout cas. Et en tout cas, en matière de scolarisation, Toulouse est relativement citée en bon élève.
Alors, il y a d'autres personnes qui se distinguent à Toulouse. C'est le cas donc de votre association, Rencontre Roms-Nous. Vous avez eu même un article sur le site de France Inter. Au printemps dernier. On va faire une courte pause musicale. Enfin, on va faire une pause musicale et puis on va vous retrouver pour détailler toutes les actions de votre association Rencontre Roms-Nous pour lutter contre les préjugés dont sont victimes les personnes roms et pour nous aider à découvrir la richesse de leur culture.
Culture.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Rome, quel accueil, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Je vous rappelle pour ceux qui nous rejoindraient autour du plateau, il y avait au début de cette émission Jean-Pierre Liégeois, auteur donc d'un ouvrage Rome et Zigane paru aux éditions de La Découverte, et avec nous Nathanaël Vignaud, coordinateur de l'association Rencontre Rome Nous à Toulouse, et André Nicolae, jeune Rome, service civique au sein de cette association et peut-être bientôt embauché. On en parlera à la fin de cette émission. Alors je disais, Rencontre Rome Nous fait parler d'elle, cette association née en 2014. Vous avez eu le droit donc à un article sur France Info, c'était en avril 2019, pour une journée de sensibilisation à la culture rome. Dites-nous comment est née cette association. Est-ce que vous êtes un peu unique en votre genre, Nathanaël Vignaud? Est-ce que dans chaque grande ville concernée par ces questions, ces problématiques, il y a des associations comme les vôtres?
Je ne sais pas si on a le monopole en France et s'il y en a partout en France. En tout cas, ici à Toulouse, on est sur un angle... Enfin, on est peut-être les seuls à le faire. Enfin, on était les seuls quand on a créé l'asso en 2014, puisque 2013 même, puisque ça s'est créé dans le cadre d'un projet étudiant et c'était en pleine affaire Leonarda dans les médias. Donc c'est cette jeune lycéenne kosovarde que l'État français a décidé d'aller chercher chez elle pour l'expulser au Kosovo. Et donc ça en était suivi tout un déferlement politico-médiatique sur les Roms, enfin contre les Roms. Et l'idée c'était de passer justement par la culture pour voir si tout ce qu'on disait dans les médias, dans les discours politiques était vrai, et dans quelle mesure les préjugés, on pouvait combattre les préjugés concrètement, et surtout en remettant les Roms au cœur du projet, puisqu'on était convaincus que c'était en les remettant au cœur de l'action que les préjugés allaient tomber un à un.
Alors ça, vous insistez dessus, hein, c'est-à-dire vous ne faites pas ça à la place des Roms, mais avec eux. C'est pour ça qu'entre autres, vous avez souvent des services civiques, plusieurs services civiques Roms parmi votre association. Alors ces préjugés, j'aimerais justement qu'on en déconstruise quelques-uns. Il y en a un premier déjà dont on a parlé au début de cette émission, et on l'a rappelé, c'est qu'on imagine que les Roms, ce sont juste justement ces gens qu'on voit à la rue, hein, qui ont vécu les choses terribles qu'André a vécues. Et la plupart donc sont sédentaires, salariés et intégrés. Quels sont les deux, trois autres grands préjugés que l'on a sur les Roms en France? Qu'est-ce que vous dites à ce sujet?
Le plus connu, je pense que c'est les Roms sont tous des voleurs, qui volent, qui viennent en France pour profiter des allocations sociales. Mais tout ça est faux, puisque y a des Roms qui volent, c'est sûr, on n'est pas là pour faire d'évangélisme, mais il y a des vols dans toutes les communautés ou dans tous les pays. Après, les Roms profitent des allocations, non, parce que pour avoir des allocations, il faut travailler, il faut ouvrir des droits. Donc s'ils ont des allocations, c'est qu'ils ont ouvert des droits en France. Donc voilà, c'est des préjugés comme ça qui sont liés à la méconnaissance. C'est ce que Jean-Pierre Liégeois disait en début d'émission. C'est pas le fait qu'ils sont inconnus, c'est le fait qu'ils soient méconnus. Donc ça marche aussi sur tous ces préjugés.
Mais est-ce que vous n'allez pas un petit peu vite là pour répondre aux préjugés, si je peux me permettre, ce que vous me disiez aussi hors antenne, que Toulouse étant une ville connue pour son accueil, il y a du coup aussi une forme d'appel d'air, et c'est ce qui fait qu'on trouve dans les médias toujours ce chiffre de 1500 Roms à la rue ou dans des bidonvilles. Donc c'est des personnes en situation de précarité, mais qui voient quand même la France comme un lieu possible d'intégration, d'un meilleur sort. Alors ça ne veut pas dire qu'ils profitent pour autant du système, mais enfin ils cherchent en tout cas à s'intégrer et à profiter aussi du système, non?
Ils profitent du système, mais ça dépend ce que vous appelez par profiter du système. Avoir droit au système, c'est... Je vois par exemple la famille d'André, elle a bénéficié d'un appartement parce qu'elle a travaillé, donc du coup c'est le travail qui lui a donné accès au droit commun. Le droit commun, que ce soit des Roms ou n'importe quel ressortissant européen, on ne lui donne pas comme ça parce que on ne le donne pas aux Roms parce qu'ils sont Roms. Ils ont accès au droit commun parce qu'ils méritent l'accès au droit commun. Donc ils ont accès à un logement, ils ont accès aux soins, ils ont accès aux allocations sociales parce qu'à un moment donné, ils ont travaillé, ils ont assez cotisé pour pouvoir y avoir droit. Donc ils profitent parce qu'effectivement, les conditions de vie en France, une fois qu'on travaille, sont bien meilleures que les conditions de vie en Roumanie ou dans les Balkans.
Voilà, et c'est le cas évidemment de pas seulement des Roms qui viennent toquer à la porte de la France. Dieu sait si on entend parler dans les médias, et y compris à cette antenne. Alors, il y a quatre objectifs à votre association: lutter contre les discriminations, créer du lien entre différents publics, l'accès à la culture pour tous et l'inclusion donc de ces personnes. Racontez-nous un peu ces quatre objectifs, et après on détaillera les actions. Vous pouvez les détailler aussi sinon dans la foulée.
Bah, c'est ces quatre objectifs qui finalement n'en font qu'un. C'est, c'est le dernier qui est le plus important puisqu'il est un peu transversal. C'est l'association, c'est de leur donner ou de leur redonner la parole pour favoriser leur inclusion dans la société, leur participation et du coup, en toile de fond, leur citoyenneté. Puisqu'on le rappellera jamais assez, mais en tout cas, nous, les Roms avec lesquels on travaille sur le terrain de la Flambère, sont des Roms roumains. Parce que j'ai vu que tout à l'heure, vous avez repris jeune oui. Rom et jeune roumain, mais c'est pareil, c'est un jeune Rom roumain, les deux marchent.
Enfin, sauf que tous les Roms ne sont pas roumains.
Tous les Roms ne sont pas roumains, mais dans le cas d'André, c'est un jeune Rom et un jeune roumain. Et ils sont citoyens européens, donc ils ont les mêmes droits qu'un citoyen espagnol, etc. Donc nous, on est là aussi pour rappeler ce droit et qu'ils ont le droit d'être en France parce qu'ils sont européens. Et donc on fait alors, des projets...
Quelles actions vous menez? Vous pouvez nous raconter quelques-unes des grandes actions?
Alors on a quatre actions parce que je vois aussi que le temps passe. Donc on a quatre types d'actions. On a un volet... culturel. Donc là, on va sur premièrement sur la diffusion des cultures tsiganes. Donc ça va être des concerts, de la musique, des stages de danse où c'est les Roms eux-mêmes qui vont promouvoir leur culture. Ensuite, on va avoir un volet toujours culturel, mais qui là où on va amener les Roms vers d'autres univers culturels. On va faire des projets danse, théâtre, photo avec d'autres publics. Donc là, le fait de travailler ensemble fait que, on se rend compte que ce qu'on pense de l'autre n'est pas fondé, parce qu'on travaille avec lui, donc on se rend compte que non, le Rom n'est pas un voleur parce que je le côtoie tous les jours à la danse. Ensuite, on a un troisième volet qui est tout autour de l'école, favoriser la scolarisation des enfants roms, et le dernier champ.
Alors juste sur la scolarisation, vous pouvez insister un tout petit peu, c'est comme ça, donc André a entendu parler de votre association, c'est-à-dire que vous intervenez sur les différents bidonvilles, par exemple à Toulouse,
on pour faire de la scolarisation. Sur les différents bidonvilles, on intervient nous sur un seul bidonville, donc le terrain de la Flambère. Par contre, on travaille avec les établissements scolaires où sont scolarisés les jeunes de la Flambère, de très près, pour renforcer l'accompagnement scolaire des élèves. Et c'est comme ça en fait, qu'on a travaillé avec André, parce qu'on a travaillé de près avec les équipes éducatives du collège Clément Cisor, qui sont désormais très investies sur ces questions-là. Et si la lutte contre le racisme ne l'était pas il y a quelques années, elle l'est aujourd'hui devenue, au sein de l'établissement, une priorité. Donc on travaille comme ça de près pour accompagner au mieux les élèves, en essayant de créer des synergies entre les équipes éducatives, les familles et nous. Et là, les services civiques, du coup, qui rejoignent le dernier volet sur l'insertion professionnelle, sont des vrais médiateurs puisqu'ils font le lien permanent entre les familles, les élèves et le collège.
Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus justement sur ces actions que vous menez auprès des écoles pour essayer de travailler? Alors André intervient dans les écoles avec d'autres, donc vous avez parlé de Clément Cisor, mais je sais pas, il y a des programmes qui se mettent en place, ça se multiplie comme ça, ne serait-ce qu'au moins dans l'Académie de Toulouse ou au-delà?
Nous on travaille de près avec le collège Clément Cisor parce que beaucoup d'élèves sont scolarisés là-bas. Après, il y a cette campagne École pour tous que André a présentée.
Donc, campagne nationale.
Qui est une campagne nationale, mais les jeunes ici en sont une émanation locale et on donne une impulsion vraiment en fonction des contextes locaux.
Alors rappelez juste du coup les grands éléments pour compléter peut-être ce qu'a dit André. C'est donc une campagne quand est-ce qu'elle a été lancée et
cette campagne, elle va avoir un an le 20 novembre et du coup, elle est portée par les premiers concernés. Donc c'est les jeunes Roms, les jeunes mineurs isolés, les jeunes... les gens du voyage, etc. Et donc, c'est eux qui dessinent la campagne.
Accompagnés par de multiples associations, soutenus par les pouvoirs publics?
Non, soutenus par les pouvoirs publics, pas encore, mais beaucoup d'alliés, beaucoup de parlementaires, beaucoup d'associations gravitent autour de cette campagne, mais c'est vraiment les jeunes qui en sont au cœur et qui, eux, définissent eux-mêmes les actions. Avec trois objectifs, donc c'est aller à l'école, rester à l'école et réussir à l'école.
Alors André, juste on va dire un petit mot, comment ça se passe quand vous intervenez comme ça dans les écoles? Vous racontez tout simplement votre parcours pour expliquer combien il a été difficile et puis dire que vous avez souffert d'un certain nombre de préjugés, comment ça se passe?
Comme je vous ai dit tout à l'heure, on rentre dans les collèges et on raconte notre histoire et...
C'est tout, faut raconter.
Ouais.
Voilà. Et ça suffit pour que les préjugés tombent, c'est ça
ou... Ah non, ça c'est pas suffisant parce qu'il faut faire d'autres actions, mais nous, quand on va parler de notre histoire, en fait, il faut que eux, ils fassent après nous des actions dans les collèges, tu vois.
C'est-à-dire, non.
C'est-à-dire, tu peux compléter, s'il te plaît.
Oui,
l'idée, c'est de créer une prise de conscience avec leurs histoires, Et le module se finit par réfléchir avec les élèves à des actions que eux pourraient mettre en place dans le collège une fois que le collectif est parti après le module. C'est voilà, maintenant, c'est pas one shot, c'est qu'est-ce que les élèves font après que le collectif soit parti, qu'est-ce qu'ils veulent mettre en place concrètement dans leur établissement et deviennent des ambassadeurs contre le racisme à l'échelle de leur établissement.
Et cette campagne, elle est partie pour durer encore ou il y a une date limite ?
Non, je pense que... Moi, à titre personnel, j'aimerais qu'elle disparaisse demain. Ça veut dire que tout va bien. Mais c'est un peu comme les Restos du Cœur, c'est pas prêt de s'arrêter. Mais oui, je pense qu'elle va durer encore un petit peu de temps.
Voilà, donc hashtag école pour tous. Cette campagne qui est en cours. Vous pouvez retrouver tout ça sur Internet ou sur les réseaux sociaux. On va finir donc pour donner quelques informations. Vous avez donc un festival prochainement, tout prochainement, puisque c'est le 22-23 novembre prochain, Balkanica. Vous pouvez nous en dire quelques mots de ce festival ?
Ce festival, il est né de la volonté justement de mélanger et de croiser les publics. Donc c'est en Palo, donc quartier... prioritaire de la ville de Toulouse, avec des habitants qui ont de multiples préjugés sur les Roms et inversement, des Roms qui ont des préjugés sur les habitants des quartiers. Donc l'idée c'était de faire un événement culturel où les gens se rencontrent, où les gens dansent, où les gens sont ensemble autour d'un événement convivial et festif. Donc là ça se matérialisera par de la danse, de la musique, du cinéma. À Ampalo, donc on invite le grand public aussi, parce que l'idée c'est de décloisonner aussi les quartiers à Toulouse, donc de créer des circulations entre le quartier de la Flambère, Ampalo et le centre-ville, pour dire aux gens, on habite tous la même ville, donc on peut tous aller partout, on est tous légitimes pour se promener ici ou là.
Et une adresse, donc rencontre, pardon, Balkanica, c'est donc du 22 au 23 novembre prochain, donc dans le quartier d'Ampalo, à la MJC d'Ampalo. Et puis, un site internet rencontre-rom-nous.com pour trouver plus d'éléments. Et puis, on pourra aussi proposer donc un documentaire à voir qui s'appelle 8 avenues de Lénine. Documentaire intéressant qui permet de comprendre un petit peu plus la situation des Roms. Merci beaucoup à tous d'être venus au micro de Vivante Église ce matin. Je rappelle une dernière fois aussi le titre de l'ouvrage de Jean-Pierre Liégeois qui était avec nous au début de cette émission. Ouvrage savant à creuser, Roms et Tziganes, paru aux éditions de La Découverte. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi. Thank you.